je suis censée donc faire un bref exposé pour rappeler un petit peu le bilan économique et social de l'agriculture industrielle que j'ai longuement abordé dans des films et livres précédents, Le Monde selon Monsanto, Notre Poison quotidien, Argentine, le soja de la faim, Les pirates du vivant, Blé, chronique d'une mort annoncée, enfin c'est toute une série de travaux. Alors je vais être courte parce que je pense que ce qui est plus intéressant c'est tout ce qui va suivre. On est plutôt tourné vers le futur et comme l'a très bien dit le ministre, le foil, voir comment on va réussir cette transition. Voilà. Alors, je voudrais qu'on commence cette journée par un petit extrait du film Les Moissons du Futur qui est passé sur Arte en octobre 2012. Donc c'est l'extrait numéro 1, c'est court mais ça permettra de rentrer par l'image dans ces sujets qui nous préoccupent tous. Voilà. Les lumières, peut-être.
Belle Lesser exploite 480 hectares de soja et de maïs transgénique dans le Midwest américain.
Plus fort, peut-être, le son.
Contrairement à Eleazar, son collègue mexicain, il est obligé de racheter chaque année de nouvelles semences, car les OGM sont protégés par un brevet. Ses coûts de production ne cessent d'augmenter en raison de la résistance développée par les insectes et les mauvaises herbes aux pesticides chimiques ou transgéniques.
C'est du maïs transgénique ?
Oui, cette variété est ce qu'on appelle un OGM triple. Elle comprend un gène pour la pyrale du maïs, un autre pour la chrysomèle des racines du maïs, et un gène de résistance à l'herbicide Roundup.
La semaine dernière, nous avons rencontré au Mexique un producteur de maïs qui pratique le système de la milpa. Vous savez ce que c'est ?
Non, je n'ai jamais entendu parler.
C'est une combinaison de plantes. On cultive en même temps des citrouilles, des haricots et du maïs. Quels sont, d'après vous, les avantages ?
J'imagine que si on a plus de biodiversité, on a moins de problèmes avec les parasites.
Comme nous avons ici une grande diversité d'aliments pour les insectes, ceci s'attaque un peu au maïs, un peu aux haricots, un peu aux citrouilles ou aux herbes qui poussent dans la parcelle. Au bout du compte, ils ne constituent jamais un problème.
C'est le problème des monocultures. Si tu fais du maïs et du maïs, finalement, les parasites sont de pire en pire. Et tu dois utiliser tellement de pesticides et d'herbicides que c'est très mauvais pour l'environnement.
Ici, nous n'appliquons absolument rien. Ni engrais, ni insecticides, ni herbicides. Aucun produit chimique pour contrôler les ravageurs ou les mauvaises herbes.
Dès que les mauvaises herbes deviennent résistantes, il faut appliquer autre chose, et puis on finit par pulvériser toutes sortes de produits. Pour éviter tous ces produits, certains agriculteurs préfèrent n'utiliser que le Roundup. Parce que c'est simple, très simple, tant qu'on n'a pas de mauvaises herbes résistantes au Roundup. Avec la technologie, on s'en sort toujours, mais avec tous ces produits chimiques, on est toujours un peu inquiet.
Pour votre santé ?
Oui, pour les effets que ça peut avoir sur la santé. On ne les voit pas tout de suite, mais au bout de 25 ans.
Et pour vos enfants ?
Oui, ou pour les consommateurs qui vont boire l'eau, ou pour les nappes phréatiques.
Nous faisons partie de la Terre, et nous vivons de la Terre. C'est pourquoi nous ne pouvons pas déverser sur la terre quelque chose dont nous savons que cela lui fera du mal. C'est un peu comme si nous faisions la guerre à celle qui nous nourrit.
Voilà, donc c'était un petit extrait. Et si je l'ai choisi, évidemment, c'est parce qu'il résume parfaitement l'opposition entre deux modèles agricoles. D'un côté, le modèle agro-industriel promu sans relâche depuis la Seconde Guerre mondiale, basé sur l'utilisation d'intrants chimiques. Alors, je vous assure que je n'ai pas payé l'Américain pour être déprimé devant la caméra. Il l'était véritablement, au bout du rouleau. Et de l'autre, le modèle agroécologique fondé sur l'équilibre des écosystèmes et la complémentarité des cultures, des insectes, des arbres et animaux. Alors, tout indique que l'agriculture se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Je reprends là le titre d'un un document de près de 600 pages, n'est-ce pas Olivier, qu'on connaît bien, connu sous le nom de rapport de l'IASTD. Cet acronyme un peu barbare désigne une expertise collective conduite à la demande de la Banque mondiale, notamment, par 400 scientifiques internationaux, et dont les conclusions ont finalement été approuvées par 58 pays en avril 2008, lors d'une conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Johannesburg. J'ai moi-même interviewé Hans Heeren, qui était l'un des auteurs principaux de ce rapport, qui a souligné l'urgence de changer de paradigme pour pouvoir faire face aux multiples crises qui menacent la stabilité du monde et y compris la souveraineté alimentaire des peuples. Alors je veux parler de la crise du climat, de la biodiversité, de l'eau, la crise financière, sociale, économique, sanitaire, énergétique, alimentaire. Enfin, vous savez tous que ces crises sont liées. Et ce qui ressort aujourd'hui de ces différents rapports, parce que ce n'est pas le seul, hein, des Nations Unies, c'est qu'on considère aujourd'hui que l'agriculture représente véritablement un puissant levier pour agir sur toutes ces crises, à condition, bien sûr, que l'on change de paradigme, car le système agro-industriel, loin d'atténuer les crises que je viens de citer, au contraire, les accélère. Alors, avant de laisser la parole aux intervenants qui vont nous montrer comment on pourrait faire autrement, je voudrais rappeler les effets néfastes du modèle de la fameuse révolution verte. La liste est loin d'être exhaustive, mais elle rassemble les principales critiques que l'on retrouve de manière récurrente, que fait un nombre croissant d'experts au modèle agrochimique. Alors d'abord, l'agriculture industrielle est responsable de 14% des émissions de gaz à effet de serre, car elle repose, comme vous le savez, sur l'usage de pesticides et d'engrais chimiques qui sont fabriqués avec des énergies fossiles, du gaz et du pétrole. Elle repose aussi sur la mécanisation, j'allais dire à outrance, et le transport des denrées alimentaires sur de très longues distances, ce qui est bien sûr très gourmand en énergie fossile. À ces 14% s'ajoutent les 19% dus à la déforestation pratiquée majoritairement pour développer des monocultures comme le soja transgénique d'Argentine qui nourrissent nos animaux de nos élevages industriels ou pour produire des agrocarburants pour nos voitures. Si on y ajoute les 19% dus à l'élevage, vous voyez que la facture est très élevée, c'est plus de 50%, n'est-ce pas ? Et que le modèle donc agrochimique contribue largement à l'accélération du réchauffement climatique, alors que l'agriculture, par définition, devrait être captatrice de carbone. On est dans un paradoxe absolument incroyable, en fait. Alors, faut-il rappeler que les émissions de CO2 n'ont jamais augmenté aussi vite qu'au cours de la dernière décennie, 3% par an en moyenne, soit 3 fois plus que lors de la décennie précédente. Nous sommes sur la trajectoire des pires scénarios imaginé par le GIEC, le groupement interministériel sur l'évolution du climat. Alors, le réchauffement climatique, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre Le Foll, affecte déjà largement les rendements des grandes cultures européennes, ainsi que l'ont confirmé plusieurs études, je vais en citer qu'une, d'après l'une d'entre elles, publiée par Science en 2011, l'augmentation des températures, mais aussi des précipitations entre 1980 et 2008, a fait chuter les rendements moyens mondiaux des cultures de blé et de maïs, respectivement de 5,5% et de 3,8%. En France, la baisse des rendements du blé est estimée à environ 5% à cause du réchauffement. Alors, deuxième effet pervers de ce modèle, la part du secteur agricole dans la consommation mondiale de l'eau atteint aujourd'hui 70%, en raison notamment des techniques d'irrigation que nécessite l'agriculture industrielle. Un peu partout dans le monde, on assiste au développement de conflits autour de la gestion des ressources aquifères. En France, évidemment, aussi. Hein. Au problème de la raréfaction s'ajoute aussi celui de la pollution, et particulièrement dans notre pays. C'est ainsi qu'en 50 ans, par exemple, la nappe phréatique de la Beauce, la plus étendue d'Europe, je rappelle, 9500 km² entre la Seine et la Loire, 20 milliards de mètres cubes d'eau, cette nappe regorge de nitrates et autres polluants, ce qui risque d'ailleurs de finalement nous coûter assez cher en pénalité un de ces jours, hein, n'est-ce pas ? Et donc, en plus, cette nappe a connu un affaiblissement très important. La réserve a connu des baisses de niveau très inquiétantes, notamment dans les années 1990. Les rivières qui sont liées également, en 2005, sur les 17 sources de rivières exutoires de la nappe, 14 présentaient des teneurs en nitrate supérieures à 50 mg par litre, la norme de concentration maximale admissible pour la consommation humaine. Et supposé que la norme, parce que vous savez, les normes, bon... Bref, aux nitrates s'ajoutent les pesticides, et en particulier la trazine, pourtant interdite, mais qui persiste longtemps dans l'environnement. Près de 700 000 personnes sont concernées en France, essentiellement dans le bassin parisien, le nord, la vallée du Rhône et le sud-ouest, ainsi que l'a relevé une étude publiée par l'UFC Que Choisir. Donc, c'est très inquiétant. Et d'après Martin Guespero, qui dirige l'agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse, 60% des rivières et 45% des nappes phréatiques en France destinées à l'alimentation en eau potable contiennent au minimum 6 pesticides interdits depuis 2003, dont l'atrazine. Alors, troisièmement, le ministre l'a aussi dit, hein, c'est formidable, et Olivier l'a redit, tout le monde le sait, les terres où on a développé les monocultures de la Révolution verte sont complètement érodées, voire mortes. Alors, 25%, c'est le chiffre qu'on donne en général, un quart de ces territoires. Et évidemment, ces monocultures caractérisent de vastes territoires en France. Et c'est d'autant plus paradoxal que finalement, on découvre aussi que ces monocultures sont très peu productives. Contrairement, enfin, au regard des ressources qu'elles consomment pour les développer. Parce que contrairement, et c'est ce qu'a démontré mon film et mon livre Les Moissons du Futur, à ce qu'on affirme généralement, les petites fermes sont beaucoup plus productives que les grandes. Ainsi que me l'a expliqué par exemple un chercheur de l'université californienne de Berkeley. Si l'on mesure ce qu'on appelle le total output, ce qui est en français la production alimentaire totale, qui sort d'une unité d'exploitation, le ratio est beaucoup plus élevé dans les petites fermes que dans les grandes. Par exemple, des études montrent qu'un hectare planté avec le système de la milpa, auquel il était fait allusion tout à l'heure, hein, où l'on associe la culture de maïs, haricots et courges, produit autant de calories alimentaires que 1,7 hectare de monoculture, où on sépare en tout cas les cultures. Si l'on mesure seulement le rendement du maïs tout seul, il est certes plus élevé sur la grande exploitation, 5 tonnes versus 7 tonnes à l'hectare, en tout cas on compare le Mexique et le Midwest américain, mais sur la petite exploitation, on produit aussi des haricots, des citrouilles, des tomates et des dindes d'ailleurs, parce que les dindes se baladent dans la milpa. Et de plus, le système de la milpa produit 4 tonnes de matière organique par hectare qui peuvent être réinjectées dans le sol contre 2 seulement dans les monocultures. De plus, les petites fermes sont beaucoup plus efficaces, attention, bien plus efficaces, dans l'usage des ressources naturelles. Par exemple, quand on mesure l'efficacité énergétique des grandes exploitations industrielles, on obtient un rapport de 2 ou 3 maximum. Ça veut dire qu'en injectant une kilocalorie d'énergie, on obtient 3 kilocalories d'énergie en termes de nourriture. Vous me suivez ? Pour une petite exploitation, le rapport est de 15 à 30. Donc la conversion énergétique est bien plus élevée est bien plus importante dans les petites exploitations. Et c'est la même chose pour l'eau, les nutriments, l'énergie solaire ou les ressources génétiques. On estime que les petits paysans ont développé environ 1 million de variétés végétales au cours de l'histoire, tandis que les sélectionneurs de la Révolution verte n'en ont créé que 7 000. Donc voilà, ça c'est très important d'avoir ça présent à l'esprit. Alors, quatrièmement, que nous allons voir tout de suite après mon intervention, le prix des aliments issus de l'agriculture dite conventionnelle, alors moi je dis chimique, hein, est faussé par le jeu pervers des subventions accordées aux producteurs des pays du Nord et la non prise en compte des externalités, c'est-à-dire des coûts indirects qui sont induits par ce modèle agro-industriel, comme la facture environnementale, alors la contamination de l'eau, ce que ça coûte à la société, hein, n'est-ce pas, d'avoir une eau potable, ou à peu près potable, de l'air, l'érosion des sols, la destruction de la biodiversité, et la facture sanitaire, ça c'était mon film et mon livre « Notre poison quotidien », n'est-ce pas, ça coûte très cher à la sécurité sociale, les paysans malades, n'est-ce pas, tu le sais, hein, la commission des pesticides en a parlé, ou morts d'ailleurs, les maladies des consommateurs et des riverains également. Alors, une étude publiée en 2009 par le Parlement européen a révélé que si on interdisait en Europe les seuls pesticides cancérigènes, on économiserait 26 milliards d'euros par an avec les seuls pesticides cancérigènes. Et de son côté, David Pimentel, que j'avais rencontré pour mon film de l'Université Cornell, a estimé dès 1992 que le coût environnemental et sanitaire de l'usage des pesticides en Europe, aux États-Unis, s'élevait à 10 milliards de dollars. Et de nombreuses études montrent aussi que l'exposition aux pesticides peut provoquer des effets négatifs sur le système de la reproduction, sur le système hormonal et endocrinien ou sur le système neurologique conduisant aux maladies de Parkinson ou d'Alzheimer ou encore sur le système immunitaire. D'ailleurs, récemment, la maladie de Parkinson a été intégrée au tableau, enfin, si j'ose dire, des maladies professionnelles de la sécurité sociale. Alors, cinquièmement, le développement du modèle agro-industriel a provoqué un exode rural massif au nord comme au sud de la planète. Depuis 2008, un habitant sur deux habite dans les villes, et vous savez ce que ça veut dire en termes de sécurité alimentaire, par exemple, hein, évidemment, mais pas seulement, de sécurité tout court, d'ailleurs, voilà, et des villes qui ont au mieux 2 jours d'autonomie alimentaire. La France n'est bien sûr pas épargnée. En 1960, date de ma naissance, on comptait 1,8 million d'exploitations agricoles, dont celle de mes parents, voilà. Et en 1990, on en comptait plus qu'un million, et aujourd'hui, c'est moins de la moitié. Chaque semaine, 200 fermes disparaissent du territoire français, tandis que la superficie moyenne des exploitations ne cesse d'augmenter. Voilà. Alors, enfin, et j'arrêterai là, le modèle agricole productiviste, relayé par de puissants lobbies, qui seront d'ailleurs l'un des problèmes de M. Stéphane Le Foll, certainement on en parlera dans la journée, n'est-ce pas, a conduit à la consommation accrue de viande depuis le début du XXe siècle, notamment dans les pays du Nord, où elle est passée de 20 kilos par personne et par an à 80 aujourd'hui. Et avec le changement des habitudes alimentaires, on observe la même tendance aujourd'hui dans les pays émergents, comme la Chine ou l'Inde. Selon les projections de la FAO, pour répondre à cette demande croissante de viande, la production mondiale devra doubler, si on reste dans ce schéma, et il a très bien dit qu'il fallait repenser nos modes alimentaires, n'est-ce pas, devrait doubler d'ici à 2050, passant de 229 à 465 millions de tonnes. Alors, or, on estime qu'il faut 4 calories végétales pour produire une calorie de viande, de poulet ou de porc, et 11 pour une calorie de bœuf élevé de manière intensive. Alors, vous savez que déjà 40% des céréales qui sont cultivées dans le monde sont destinées précisément à alimenter ces animaux des élevages industriels. Et comme la production de viande intensive est beaucoup plus gourmande en eau que celle de légumes, on estime que les mangeurs de viande consomment 4000 litres d'eau par jour, alors que les végétariens n'en consomment que 1500. Enfin, comme je l'ai dit au début, l'élevage est l'une des principales causes du réchauffement climatique, puisqu'il totalise 18% des émissions de gaz à effet de serre. Et on estime qu'un repas avec viande et produits laitiers équivaut en émissions de gaz à effet de serre à 4758 km parcourus en voiture. C'est énorme. Contre 629 km pour un repas végétarien. C'est des chiffres impressionnants, hein, je trouve. Voilà. Alors, encore une fois, cette liste n'est pas du tout exhaustive, mais les contributions que nous allons donc maintenant commencer à entendre, n'est-ce pas, devraient apporter un éclairage documenté, fructueux, sur un autre modèle agricole permettant à la France et à l'Europe de relever les défis qui l'attendent dans un avenir proche. Alors, je voudrais inviter pour comme premier intervenant Christophe, n'est-ce pas, Alliot, qui est avec Sylvain Lee, son collègue, voilà, là-bas, fondateur de Satori, un bureau d'analyse sociétale pour l'information du citoyen, qui a été fondé, n'est-ce pas, en 2012. Vous êtes parti du constat que les impacts sociaux et environnementaux des activités économiques ne sont pas valorisés correctement par les outils traditionnels comptables et financiers. On parle en fait là des externalités négatives que je viens brièvement d'évoquer. Alors, vous allez justement illustrer ce concept très important, n'est-ce pas, les externalités négatives, à travers l'exemple de la filière lait. Voilà.